Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Ludo-Musicale, un podcast collectif exceptionnel pour des conditions d'écoute tout aussi exceptionnelles. Je suis Clélest et aujourd'hui on va parler d'une OST et donc d'un jeu qui compte tout particulièrement pour moi. Plus précisément, nous allons parler et tenter d'analyser la musique d'une cité qui ne tombe jamais dans les bras de Morphée. Mais tout d'abord, parlons un peu du jeu dont il est question. Final Fantasy IX sort au début des années 2000, signant la dernière participation exécutive à la franchise de son créateur, le conteur d'histoire Hironobu Sakaguchi. Ayant perdu sa mère un peu plus tôt, il remet en question la vie et la mort au travers de ses croyances et ce sur trois projets, Final Fantasy VII, Final Fantasy The Spirit Within et Final Fantasy IX. Ce dernier dépeint un monde en proie à la guerre que nos protagonistes vont essayer d'enrayer, motivés chacun par leur quête d'identité. Je tiens à préciser que je vais spoiler un minimum et ce jusqu'à environ la moitié du jeu, histoire d'avoir un contexte pour comprendre la portée de la musique dont on va parler aujourd'hui. Donc, sur le continent de la brume, le plus gros foyer de population d'Era, il y a trois pays pour six villes et villages. Nous avons donc Lindblum, puissance technologique et scientifique, Blumessia, le pays des rats, séparé en deux cités indépendantes, Blumessia et Clara, et Alexandrie, représentant la noblesse qui règne sur Dali et Treno, la fameuse ville qui ne dort jamais. Durant l'aventure, par des ressorts scénaristiques que nous n'allons pas spoiler, la quasi-totalité des villes du continent de la brume ont été dévastées. Toutes ? Non, une ville de riches survit encore et toujours à l'envahisseur, il s'agit bien entendu de Treno. Mais trêve de résumé, parlons un peu de la musique, la 60e piste de l'OST de Final Fantasy IX, The City That Never Sleeps. Composée par Nobuo Uematsu, le compositeur attitré de la saga jusqu'à ce 9e opus, l'instrumentalisation est toute somme très simple, un piano, ni plus, ni moins. On commence donc par une introduction d'une dizaine de secondes, qui ne fera pas partie de la boucle finale. C'est un procédé déjà utilisé pour une autre musique de cette même OST, Swords of Fury, prenant place durant l'affrontement théâtral au début du jeu. Donc cette introduction vient comme son nom l'indique, introduire la cité à ceux qui viennent d'arriver. Elle nous dit clairement, bienvenue à Treno, chers touristes. Par la suite, la musique va se décomposer en trois actes distincts, dont les deux premiers seront composés de deux parties différentes. On va donc en premier lieu avoir une partie qu'on pourrait voir comme le couplet de la musique. On a une mélodie entraînante accompagnée par des accords plaqués qui vont être doublés une octave au-dessus, et ce un temps sur deux, donnant un aspect sautillant et joyeux. Cet accompagnement va répondre à la mélodie en fin de phrase, donnant l'impression qu'elle pourrait être chantée avec réponse de la foule. Courte respiration, puis on repart sur cette même partie avant d'arriver à ce qu'on pourrait imaginer être le refrain, beaucoup plus chanté que le couplet mais avec les mêmes outils. L'accompagnement garde ses accords plaqués sautillants alors que la mélodie prend plus de place. Cette fois-ci, on attend 4 mesures, soit deux fois plus longtemps que la partie précédente, avant d'entendre la réponse du public, engageant d'ailleurs une pause comme si le morceau allait se terminer ici. Il recommence presque de force sur cette partie avant de passer à un tout autre registre. Mais attardons-nous donc sur ce que ce premier acte de la musique nous transmet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il transpire la noblesse. On a une insistance sur l'aspect joyeux, presque fêtard, avec l'accompagnement qui joue sur les octaves, mais la mélodie n'est pas en reste et semble clairement chanter les louanges de la ville. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les fêtes de nobles, durant lesquelles un membre de la famille haute se met à jouer au piano, le reste de l'assemblée autour prêt à chanter également. Étant la musique liée à une ville, ce chant pourrait parler du centre commercial, des exploits au tournoi de cartes, ou bien même de ce qu'ils ont acheté à la salle des ventes. Cherchant toujours à exhiber sa richesse, les nobles pourraient en avoir fait un chant populaire, voire même un hymne. Revenons-en à la musique, qui passe comme on l'a dit plus tôt sur un autre registre, beaucoup moins joyeux. On est ici sur une courte partie servant de break, avec des accords à deux notes presque dissonants, montant la gamme avec une courte respiration. Cette montée de gamme reprend alors de plus belle, trois tons au-dessus, etc, etc, puis on a un enrichissement des accords, qui reprennent leur couleur originelle comme si ce n'était qu'une mauvaise passe. On remarque d'ailleurs une note unique à la fin de cette partie, qui sonne comme un soupir, signe qu'il va falloir parler par honnêteté sur la partie sombre de la cité. On passe alors sur une mélodie composée uniquement de croches, accélérant le rythme de la musique, alors qu'une contre-mélodie va elle jouer des noirs en majorité, passant sur des croches à quelques occasions. Une fois n'est pas coutume, cette partie se termine sur une courte respiration précédée d'accords plaqués avant de repartir de plus belle sur cette même phrase musicale. Dans sa deuxième itération, elle va préparer le terrain pour retourner sur le côté festif et joyeux du début du morceau, et cette fois-ci, sans silence, de façon très fluide. Une pause s'impose pour parler de ce deuxième acte beaucoup plus malsain que le précédent. En première partie, on a un break assez court aux accords assez dissonants, donnant un aspect rampant d'une menace tapie dans l'ombre. On passe ensuite, sur le même registre, sur une balade, une marche mal intentionnée qui s'est glissée dans la musique et donc dans la cité. Si on était sur quelque chose de plus noble, ici on est sur l'évocation de la délinquance, ou tout du moins l'opposé de la noblesse, la pauvreté. La musique nous a cependant habitués à respirer entre ces phrases, ce qui n'est pas le cas à la fin de cet acte où le changement de registre est très fluide, comme si on se pressait de revenir sur quelque chose de plus élogieux. On repart donc sur une partie plus joyeuse, qui use des mêmes outils que les parties du premier acte, et plus particulièrement de ce qu'on a nommé refrain. On retrouve des accords à deux notes, un unisson en l'occurrence, reprenant cet aspect chanté de la mélodie. L'accompagnement quant à lui ne reprend pas totalement sa marche joyeuse et sautillante, puisque quelques notes vont se glisser ici et là, brisant l'habitude de l'octave qu'avait instauré le premier acte. Comme à l'accoutumée, silence, puis nous voilà repartis au début du morceau, en omettant bien entendu l'introduction. Dans ce dernier acte, tout semble alors rentrer dans l'ordre, sauf les quelques notes glissées ici et là dans l'accompagnement, accélérant parfois subitement le rythme de la musique tout en brisant ce à quoi le morceau nous avait habitué, comme si la balade du deuxième acte résonnait encore dans le chant. Je vous laisse avec le morceau, on se retrouve après pour l'analyse narrative. Mettons en parallèle notre analyse à ce qu'est narrativement la ville de Tréno. C'est une ville de nobles, la deuxième plus grande ville du royaume d'Alexandrie, qui n'est représentée que de nuit dans le jeu. Notre première rencontre avec cette cité, c'est quand Daga et Steiner cherchent à retourner à Alexandrie. Steiner nous dit alors que les nobles ne sont qu'une minorité à Tréno, que la nuit est longue et que les voleurs en profitent. Juste après ça, un Active Time Event nous montre Daga se faire voler par un pickpocket. Donc, malgré la grandeur de la ville, elle est essentiellement peuplée de voleurs et au milieu, il y a quelques nobles qui ont toutes les richesses. Ceci dit, la musique, comme le level design, ne semble pas aller dans cette voie. Elle occulte la partie pauvre et met en exergue la richesse dans sa grandeur comme dans son cynisme. On a un seul écran sur une dizaine que compose la ville qui représente la pauvreté. Et le deuxième acte de la musique, celui dédié à cette pauvreté malfamée, ne dure que 25 secondes sur 2 minutes 25 au total. Également, dans tous les événements qui se passent à Tréno, seul le duo de jeunes ambitieux, Mario et Nathalie, représente cette partie pauvre de la ville alors qu'on a full de dialogue sur la noblesse. L'accompagnement musical de cette cité appuie donc sur cette dualité à la fois joyeuse et fêtard, mais aussi sournoise et malfamée, alors que cette dernière est très peu représentée. La structure de la musique donne l'impression de passer au plus vite sur les dangers de la ville, avant de reprendre sur ce qui en fait sa splendeur, les nobles. Les silences qui séparent les phrases musicales et leurs répétitions donnent l'impression que le morceau retarde le plus possible l'évocation des malfrats qui peuplent la cité, et l'absence de silence à la fin de cette évocation semble presser la musique à revenir sur quelque chose de plus glorieux. Mais Tréno est aussi une échappatoire pour certains rebuts de la société. Dans un premier temps, c'est le professeur Toto, ancien savant et précepteur de la princesse Grenat, qui s'exile dans cette ville pour ses recherches, ou pour fuir le changement de comportement de la reine Branette. Ce personnage sert aussi à mettre en avant ce que la richesse de Traîneau peut faire de bon, comme aider un érudit par mécénat à continuer ses recherches. Plus tard dans le jeu, c'est une bonne partie du groupe qui fuit Alexandrie pour profiter des opportunités de cette ville. Jidan pour le tournoi de cartes, et Tarasque pour revenir aux sources de tous ses malheurs. On retrouve dans ces deux exils encore une fois une dualité qu'on a également dans la musique. Le bon du noble, son argent et sa fête insouciante, et le mauvais du voleur, du criminel et de la guerre. Cependant, la noblesse, de par sa surreprésentation sur tous les plans, n'en dépeint au final qu'une satire. La plupart des critiques de la noblesse sont plus ou moins subtiles, mais il y en a une cependant, au détour d'un dialogue, qui représente bien le cynisme autour de l'argent dans cette ville. Le baron a acheté une statue tellement grande qu'il a fallu construire une pièce spécialement pour l'exposer, répétant alors que les frais d'entretien sont très importants, ce à quoi rétorque une autre noble, comme je vous envie. Alors que tout ce qu'on peut trouver dans un coffre quelques écrans plus loin, celui réservé au quartier des pauvres, ne contient qu'un seul et pauvre guil, sans doute les seules économies du mois d'un ouvrier. Ainsi, cette insistance sur la noblesse n'est pas là pour rabaisser les méthodes des voleurs, mais plutôt pour mettre au même niveau noble et pauvre. Mais ça, c'est seulement pour son conflit interne. Traîneau vit aussi dans un monde qu'elle impacte, sans plus s'en rendre compte. Lors de notre première visite, Naga se rend dans la salle aux enchères où elle aperçoit un homme qu'elle semble reconnaître. Cet homme se fait appeler le roi et n'est autre que Kuja, un antagoniste du jeu. La ville de Traîneau est son repère sur le continent de la brume, où il peut vivre avec des gens qui ont le même sens éthique que lui. D'ici, il fournira à Alexandrie une armée de mages noirs et poussera son souverain à partir en guerre contre le reste du continent. Traîneau est donc la représentation d'une ville insouciante, de ses problèmes internes comme de ce qu'il se passe à travers le monde, finançant même la guerre sans la subir. Perpétuellement nocturne aux yeux du joueur, elle est de par ce fait une ville à part dans un monde en proie à la guerre, seul rescapé de celle-ci, rendant encore plus cynique cette cité. Sur le plan musical, de toute l'OST de Final Fantasy IX, The Cities That Never Sleep nous donne le même constat, d'une piste à part pour une ville à part. Elle n'utilise déjà qu'un seul instrument pour toute sa durée, composition utilisée sur seulement 7 autres musiques du jeu. Elle partage ceci dit le piano solo uniquement avec Birth of the New Queen, une musique accompagnant une cinématique très capillaire du 3ème CD. Heroes of May, que certains connaissent peut-être sous le nom de Loss of Me, musique dilemme du personnage de Beat. La musique de Traîneau est donc assez unique dans l'OST, qui reprend la noblesse de Rose of May, donnant une sensation d'imposture tant la cité n'a en fait rien de noble, seulement sa richesse pécuniaire. The Cities That Never Sleeps accompagne une cité dont la dualité n'a d'égal que sa splendeur qu'elle veut nous montrer, quitte à se parodier elle-même. C'est un monde à part qui est la source de nombreux tourments, dont il n'a cependant pas totalement conscience. Cloisonnant au minimum la pauvreté et la délinquance qui semblent déborder à la fois sur la musique comme sur la représentation en jeu, elle ignore également les problèmes du monde auquel elle appartient en l'absence de conséquences sur sa personne. Joyeuse et sautillante, sinueuse et sournoise, insouciante et à part, voilà qui caractérise bien la ville de Traîneau comme sa musique.